Mimi, tu viens, ça reprend.
Quoi, qu'est-ce qui reprend?
L'émission, la JT du local.
Ah oui, on est déjà lundi.
Milan Kundera a dit « La culture est basée sur l'individu, les médias mènent vers l'uniformité, la culture éclaire la complexité des choses, les médias les simplifient. La culture nous emmène vers l'autre, l'inattendu ou vers ce qui nous ressemble. En tout cas, elle creuse, elle cherche la nuance, parfois l'ambivalence. J'ai beau savoir ce qu'il se passe ici ou là, je ne suis pas certaine de mieux comprendre, de mieux ressentir les choses. La culture serait une belle fenêtre sur le monde. » Et ce midi, on l'ouvre ensemble, puisque nous irons parler aujourd'hui de l'ouverture de la saison culturelle du Carré à Château-Gontier. Nous sommes allés à la rencontre de Maël Grenier, le directeur du Carré. Il nous a expliqué un petit peu ce qui nous attend. C'est l'ouverture des saisons culturelles, mais c'est aussi une journée où nous allons parler des rencontres, puisque nous sommes allés ce vendredi à la rencontre de l'autrice Laura Poggioli, qui est venue nous présenter son livre « Trois sœurs » ce vendredi à la médiathèque de Château-Gontier, et nous l'avons rencontrée. Pour terminer l'émission, on sera avec Alain de la Ligue des droits de l'homme, qui revient cette année dans la JT du local. Mais avant tout cela, on commence bien évidemment par un petit point sur les actualités. À Laval, à Château-Gontier d'ailleurs, un appel aux dons est lancé pour venir en aide aux victimes au Maroc et en Libye. L'association Mosaïque se joint à la Croix-Rouge pour récolter des dons. Si vous souhaitez faire un don, vous pouvez vous rendre le dimanche entre 10h et midi au 44 rue de la Libération pour donner des kits d'hygiène, des bâches, des tentes ou des sacs de couchage. Une urne est également disposée dans le hall de la mairie pour y déposer des dons financiers. Il est important de mentionner votre nom et vos coordonnées pour bénéficier de la déduction fiscale. À Laval, le festival du Chaînon Manquant, une montée en puissance. Cette année, le festival a accueilli 821 professionnels contre 723 en 2022. Kevin Douvillier, co-directeur du festival, explique cette augmentation par la hausse des adhésions au réseau Chaînon et aux délégations internationales qui se sont également étoffées avec des projets renforcés venant de la Suisse, de la Belgique et du Canada. Une belle augmentation de la fréquentation des spectateurs également a été relevée cette année. Les organisateurs définissent cette 32e édition avec trois mots-clés. Éclatante, bienveillante et consciente au vu des thématiques abordées. Rallycross de Mayenne, c'était ce dimanche que se déroulait le championnat sur le circuit Maurice Forget. Le classement donnait la victoire à Fabien Payet en 208 devant Samuel Peu. Mais le classement est actuellement suspendu car Anthony Pelfren remportait la course avant d'être déclassé pour une manœuvre au premier virage. Anthony Pelfren a fait appel à cette décision. Il faut donc encore attendre pour avoir les résultats de la manche. À Sainte-Suzanne, des dizaines d'œuvres ont été vandalisées à la bombe noire dans la nuit de dimanche à samedi. Plusieurs personnes se seraient introduites dans la cour du château de Sainte-Suzanne et détruit plusieurs photographies exposées du photographe Laurent Delaye. Les organisateurs auraient donc déposé une plainte. Pour terminer, la saison de la chasse est ouverte en Mayenne. Selon un texte publié ce dimanche au journal officiel, les chasseurs, surpris le fusil à la main en état d'ivresse manifeste, risquent désormais une amende allant jusqu'à 1 500 € et 3 000 € en cas de récidive. Une nouvelle réglementation d'ailleurs s'applique pour la préservation de l'eau depuis le 15 février 2023. L'utilisation et le port de la grenaille plomb en zone humide sont interdits dans un rayon de 100 mètres autour des cours d'eau, rappelle le cabinet de la préfète. Je vous le disais tout à l'heure, nous allons donc découvrir l'ouverture de la saison culturelle du Carré à Château-Gontier ensemble. Nous sommes allés à la rencontre de Maël Grenier, le directeur du Carré, qui nous présente ce qui nous attend, puisque je vous le rappelle, l'inauguration de la saison culturelle se déroule le 22 septembre. Donc je vous emmène avec moi découvrir cette nouvelle saison. Vous connaissez sans doute déjà, mais au pôle culturel des Ursulines à Château-Gontier se trouve le Carré. C'est une scène nationale, un centre d'art contemporain d'intérêt national. Et aujourd'hui, on va y faire un tour pour y découvrir la nouvelle saison culturelle.
Donc je suis Maël Grenier, directeur du Carré. Avec l'équipe, j'ai construit une saison la plus diversifiée possible, déjà en termes de propositions, avec, je pense, des spectacles ou des performances ou des expositions qui intéresseront le maximum de personnes parce qu'elles sont déjà très accessibles, très diverses, avec une certaine connotation assez légère pour certaines. C'est aussi important pour la période. On s'intéresse en tout cas à la température de la période et faire en sorte que voilà, cette diversité de couleurs se retrouve dans toutes ces propositions. Par exemple, la thématique un petit peu de la saison, elle est sur la première de couverture du programme, à mi-chemin, on va dire, entre un cadran solaire ou un grand mikado. Le grand mikado pour la diversité des esthétiques, la pluralité des propositions qui sont normalement vraiment accessibles. Et puis la dimension cadran solaire pour la thématique du temps qui va être vraiment interrogée cette année à travers un temps fort spécifique, mais d'une façon générale sur l'ensemble de la saison. Faire en sorte que ce soit une saison où on se retrouve, où on ralentisse, où on prenne le temps, déjà du temps pour soi, du temps pour les autres, et où on s'interroge aussi sur la frénésie de l'époque. On a tous constaté notre immobilité lors du Covid, et on constate aussi le redémarrage parfois un petit peu compulsif qui l'a suivi. Donc le principe, c'est de vivre cette saison avec un regard un peu nouveau, un peu neuf, et un petit peu moins de propositions. On va dire, on va essayer de faire moins pour faire mieux. Se caler aussi à cette question rythmique qui est ultra importante dans nos vies. Et laisser aussi le temps de la rencontre s'installer pour tout le monde. Par exemple, on a la soirée d'ouverture qui peut être aussi un endroit de découverte qui est assez, pour le coup, assez ouvert en termes d'approche. On a une soirée d'ouverture qui aura lieu dans 15 jours, le vendredi 22 septembre, et qui se veut assez large dans l'approche parce qu'on va y faire le vernissage de la prochaine exposition du Centre d'art qui a lieu du coup au sein du pôle des Ursulines exceptionnellement. Donc il y aura la découverte de Céleste Richard Zimmermann.
Ça tombe à pic parce que Céleste Richard Zimmermann est justement en train d'installer ses œuvres. Donc j'en ai profité pour aller lui poser quelques questions.
Je suis artiste visuelle et c'est ma première exposition au Carré à Château-Gontier qui débute bientôt en septembre.
L'exposition s'appelle « Tout semé, tout brûlé ». D'où est venue l'idée de ce nom ?
Alors le nom de l'exposition, il est tiré un peu de tags d'après-manifestation qu'on pouvait voir dans les rues, dans diverses villes en France. Du coup, j'ai souvent utilisé ces termes-là lors de différentes peintures, hein, tout cramé, tout fêté, etc. Et donc là, j'ai un peu détourné dans cette idée dans le monde un peu agricole, quoi, une sorte de politique de terre brûlée que quelque part de tout cramer peut créer des germinations possibles. Donc déjà, je m'inspire pas mal de codes artistiques ou de codes visuels qui peuvent parfois renvoyer à la mythologie ou également à des édifices qu'on peut voir dans l'espace urbain. Et cette exposition, elle présentera du coup des pièces en polystyrène blanche qui évoqueront des sculptures de jardins un peu romantiques. Qui seront associés avec des peintures, également une nouvelle création au sol qui sera une sorte de sol brûlé en mousse polyuréthane où de nouvelles plantes poussent.
D'ailleurs, pour vos sculptures, vous utilisez une technique particulière sur du polystyrène. En quoi ça consiste ?
Alors, les sculptures en polystyrène, du coup, la technique, c'est une technique assez ancienne qui s'appelle la taille directe. Donc, en fait, en gros, on enlève de la matière du matériau, mais on ne peut pas en rajouter. Donc, de loin, on peut un peu penser à une sorte de plâtre ou une sorte de pierre, et c'est que de plus près qu'on voit que c'est du polystyrène. Donc, le matériau est évidemment très fragile. Voilà, ça en renvoie un peu à côté artificiel. Et puis, en même temps, il représente des formes un peu issues de l'autorité, donc des colonnes voilà, qui imposent une sorte de statement assez ouais, autoritaire. Et donc, d'un seul coup, toutes ces formes d'autorité deviennent une sorte de décor, une sorte de quelque chose de périssable qui peut s'abîmer et en même temps un peu fantomatique.
Mais l'exposition n'est pas le seul événement de la journée, puisqu'à 19h30, il y a une conférence spectacle ludique autour des années folles dans la salle. Et ensuite, un bal participatif dont va nous parler David Roland, chorégraphe de l'événement. D'ailleurs, sa proposition, il l'appelle le bal fou des années folles.
Alors, pourquoi le bal fou des années folles ? Alors, pourquoi déjà un bal ? Dans mon répertoire de compagnie, il y a déjà beaucoup de spectacles participatifs, mais je n'avais jamais vraiment fait de bal en tant que tel. Voilà, donc je voulais m'intéresser à cette forme-là du bal. Le bal des années folles, parce que c'est une période vraiment de libération, de joie de vivre, voilà, après la Première Guerre mondiale. Donc, c'est les années 20-30, hein, les années folles. Et le bal fou, c'est qu'en fait, toutes les danses qui étaient dansées à cette période-là, ben nous, les quatre danseurs qui sommes au plateau, ben on les réinterroge, on s'amuse avec. Et donc, c'est un bal fou et qui n'est pas vraiment pour les puristes des danses de salon. Voilà, on va vraiment dans plein de directions différentes. Je disais qu'on réinterrogeait les danses et donc on, avec des éléments très simples de chaque danse, on va se mettre très rapidement en mouvement, seul ou à deux, avec différents partenaires et différents types de danses. Nous, on vient de la danse contemporaine, donc on s'amuse à transformer les danses de l'époque. Et c'est également un voyage à travers plein de pays parce qu'à cette époque-là, donc les années folles, beaucoup de danses arrivaient des États-Unis, mais ils aimaient aussi beaucoup l'exotisme. Donc un peu de danse à un peu de tango, un peu de paso doble qui nous vient d'Espagne. Il y a même une danse chilienne dont on a retrouvé le titre, on ne sait pas à quoi ça ressemble. Donc il y a aussi ça, dans ce bal fou des années folles, on a beaucoup de titres de danse, voilà, mais on ne savait pas à quoi ça ressemblait. On avait des partitions de musique ou on a des photos, mais on n'a pas plus que ça en fait. Donc à nous, en fonction du terme, d'inventer la danse, quoi. Donc le pas de la cigogne en goguette, ben, on l'a inventé. Il a existé, mais on ne savait pas à quoi ça ressemblait.
Vous savez, au Carré, c'est comme une grande famille. J'ai pu y croiser Jérôme Cerciron et Thomas Grimaud qui m'ont dévoilé la petite restauration qu'ils allaient proposer ce soir-là.
On proposera donc de la restauration légère. On va faire des bousquetas, donc des tartines de pain maison que nous faisons avec une farine locale, évidemment, avec voilà, du fromage, des poires notamment. Il y aura une tartine spéciale mayonnaise, poire, camembert, noix, et on fera aussi un généreux gâteau poire chocolat. Nous proposerons donc évidemment aussi des choses à boire, essentiellement des bières artisanales, du vin nature, du jus de pomme, et plein d'autres choses.
Et on parle local. Les poires pour les gâteaux et les bruschettas vont être on ne peut plus locales puisqu'on va utiliser les poires de la cour des Ursulines. Il y a des poiriers qui font le tour du Carré et on a déjà récupéré quelques-unes de ces poires qui sont en train de mûrir. On en récupérera d'autres quand elles seront mûres et c'est celles-ci qui serviront pour les gâteaux et les bruschettas, en espérant qu'on ait la quantité nécessaire.
Mais n'oublions pas, le 22 septembre, c'est donc l'ouverture de la saison culturelle du Carré. Et donc, Maëlle Grenier nous raconte ce que nous réserve un peu cette nouvelle saison.
Il y a de tout. Dès ce début de rentrée, on peut venir presque tout de suite pour créer une expérience. Je pense à ressources humaines en théâtre, pour les personnes qui apprécient le théâtre. Au début du mois d'octobre, là, le 6 octobre, très belle date de théâtre où on peut être tout de suite emmené dans une dynamique. C'est une merveilleuse porte d'entrée, là aussi, pour sentir si on se sent chez soi. Au Carré. Il y a plein d'endroits qui sont presque tous assez exceptionnels. Ils n'ont pas tous la même voilure, c'est normal. Mais par contre, ils ont été invités, ils ont été programmés avec la même attention. Donc c'est sûr que dans une scène nationale, ça je le dis, c'est important, on ne va pas trouver forcément tout de suite, paf, les têtes d'affiche. Ce n'est pas notre mission première. Ça, c'est important de le dire et que, voilà, qu'on sache qu'on ne va pas forcément étaler toute la vitrine à cet endroit-là. Parce que la mission des scènes nationales, c'est aussi de venir faire découvrir des artistes soit internationaux, soit nationaux d'une grande voilure, d'une notoriété importante, mais pas au point de certains qui peuvent avoir une grande visibilité télévisuelle, par exemple, et qu'on peut retrouver sur d'autres scènes. L'idée, c'est qu'on soit tous complémentaires. Ici, on a cette mission-là, on s'attache à proposer des œuvres qui sont de toute façon assez exceptionnelles, mais qui n'ont peut-être pas encore eu leur passage dans les grands médias. Et c'est au public de venir en décider pour savoir si ça se confirme à travers leur accueil. Quoi.
Plus on va aller voir de spectacles, plus on va avoir un regard aiguisé et on se nourrit, de ce que les artistes proposent aussi. C'est hyper important et du coup, c'est aussi la richesse de venir dès le plus jeune âge, de partager. C'est aussi des moments d'échange importants, que ce soit en famille, entre amis. Je pense que ça peut, voilà, un spectacle, ça peut engendrer des discussions incroyables sur, en fonction de ce que chacun a vu dans le spectacle, si on est d'accord, pas d'accord. Enfin, c'est hyper, hyper riche. Et c'est aussi, par rapport au lieu, c'est aussi quelque chose qu'on veut absolument, enfin qu'on essaye de développer, que c'est pas juste un endroit où on vient consommer du spectacle, c'est un endroit où on partage quelque chose. Après les spectacles, c'est aussi, on organise aussi des rendez-vous, des bords de scène pour voilà, pour ouvrir cette parole et échanger. C'est ça qui est riche, c'est tout l'échange qu'on peut, tout ce que ça provoque aussi, au-delà du moment où on le vit.
Et c'était Christine Houdard, directrice de la communication du Carré, que nous avons entendue à la fin de ce reportage. C'est donc un très beau programme qui s'annonce au Carré. Sortez vos agendas, je vous le rappelle, vous êtes attendus au pôle culturel des Ursulines le vendredi 22 septembre. Mais je vous le disais tout à l'heure, l'agité du local est allée à la rencontre de l'autrice Laura Poggioli, qui est venue ce vendredi présenter son ouvrage « Trois sœurs » à la médiathèque de Château-Gontier. Mais je le sais, on est lundi, c'est pas la journée la plus facile de la semaine. Alors, je vous ai trouvé un petit morceau qui donne la motivation. C'est un extrait de la bande originale du film « Annette » de Léos Carax, « Sommeil We Start » des Sparks. Écoutez.
So may we start. So may we start. It's time to start. My time to start. They hope that it goes the way it's supposed to go. There's fear in them all, but they can't let it show. They're under. Budget is large, but still, it's not enough. So may we start.
May we start. May we not start.
So may we start.
May we start. May we not start.
It's time to start.
May we start. May we not start.
My time to start.
May we start. May we not start.
We fashion the wall,
a wall built just for you.
A tale of songs and fury with no taboo. We'll sing.
In minor keys,
and if you want us to kill too,
we may agree.
So may we start.
Tout à l'heure, nous étions à Château-Gontier pour l'inauguration de la saison culturelle du Carré. Et nous y restons pour cette émission, mais on remonte quand même un petit peu dans le temps. Car ce vendredi soir, à la médiathèque de Château-Gontier, Laura Poggioli venait présenter son livre « Trois sœurs ». Si vous l'avez manqué, je vous propose de l'écouter dans quelques instants car nous l'avons rencontré. L'ouvrage qu'elle présente est puissant et parle notamment d'une affaire de violence intrafamiliale en Russie. Il est important de savoir que l'entièreté de l'écriture de ce roman s'est faite avant le début de la guerre qui oppose la Russie et l'Ukraine. Cela permettra de bien comprendre les propos de Laura Poggioli, même si elle le précise au sein de ce reportage. Je vous laisse l'écouter, c'est maintenant.
J'ai grandi à Angers et c'est à Angers au lycée. Je suis allée au lycée à Angers, au lycée Joachim du Bellay, et c'est à Angers que j'ai découvert la langue russe et la culture russe. Et ça a été une rencontre pour moi avec un pays, avec une culture qui a été très importante. Et c'est quelque chose qui m'a suivie ensuite pendant mes études, puisque je suis allée vivre en Russie. C'est quelque chose de très important dans ma vie. Et donc, c'est en Russie que s'inscrit mon premier roman, qui est sorti il y a déjà un petit peu plus d'un an. Enfin, c'était à la rentrée littéraire de l'année dernière, donc en août 2022. Et dans ce premier roman, je suis partie d'une histoire vraie, d'un fait divers qui s'est passé en Russie. Donc l'histoire de trois sœurs, Christina, Angelina et Maria Ratchatourian, qui ont tué leur père un soir de juillet 2018. Et c'est un parricide qui a eu un écho très très important en Russie, un écho médiatique très très important, parce que ça vient toucher au sujet des violences domestiques, puisque très vite, on a appris que ces trois sœurs, elles étaient victimes de graves sévices, de graves violences depuis des années, et que rien n'avait été mis en œuvre pour les protéger. Et donc la Russie va un peu se diviser entre ceux qui estiment qu'elles doivent aller en prison et être condamnées pour le parricide, et ceux qui au contraire disent que la légitime défense doit être reconnue. Et ça, en fait, ça rejoint un sujet beaucoup plus vaste. Donc au-delà de cette histoire, c'est l'histoire particulière de ces trois sœurs, c'est le sujet des violences domestiques en Russie. Puisque ces violences, elles ont été dépénalisées en 2017. L'État russe a estimé qu'il n'avait rien à dire de ce qui se passait en fait dans l'intimité des foyers. Et donc, de ce fait, depuis cette dépénalisation, un homme violent avec sa compagne, avec ses enfants, il risque rien de plus qu'une amende pour un excès de vitesse, grosso modo, sauf cas de récidive et de blessures graves. J'ai découvert cette histoire, donc elle m'a énormément touchée. Je suis rentrée de ce voyage avec cette histoire, avec leur visage. Et je me suis dit, j'ai toujours voulu écrire un livre sur la Russie, j'ai toujours voulu écrire mon roman russe, mais j'ai douté. Hein, je me suis dit, est-ce que j'ai envie de raconter ça sur la Russie? Parce que c'était un peu la pointe de l'iceberg, et j'ai découvert des chiffres complètement fous, de 12 000 féminicides par an, des trucs. Je n'étais pas sûre d'avoir envie de raconter cette histoire-là. Je veux pas, je me dis, tu vas pas faire un brûlot sur la Russie. Enfin, c'était pas possible. On n'était pas du tout dans le contexte actuel. Et j'étais, à l'époque en tout cas, très agacée par la façon dont on parlait de la Russie, dans les médias, donc plein de gens, même dans mon entourage, comme s'ils connaissaient la Russie, ils connaissent pas du tout. Enfin, et je voulais pas, je me dis, mais tu vas donner du grain à moudre, en fait, et tu vas donner une image négative. Donc c'était assez compliqué, mais ça venait toucher quelque chose de très intime, puisque ça me renvoyait à moi, ma vie en Russie quand j'étais étudiante. Donc ça remonte à un petit moment, hein. J'avais 19-20 ans, donc j'ai vécu un an et demi là-bas. Et là-bas, j'ai vécu une histoire d'amour avec un jeune russe, que j'ai renommé Mitya là, dans le livre, et avec qui j'ai vécu une expérience de la violence qui n'est pas comparable à celle vécue par les sœurs Ratchatourian, mais une expérience de la violence quand même, violence psychologique, violence physique un peu. Je me suis dit que c'était par cette histoire que j'allais faire rentrer aussi les lecteurs dans ce livre que je voyais comme un roman. Donc, je sais que le sujet, c'est pas un livre facile, mais je pense qu'il y a des passages un peu plus légers quand même. Quand je raconte, c'est des moments de jeunesse, quoi, de fête, même de... Voilà, là-bas, c'était une autre époque aussi. Donc ça, j'ai essayé de le faire passer. Et puis après aussi, dans tous ces chapitres où je raconte la vie des filles, là, tous ces passages où là, j'ai vraiment fictionnalisé, là, c'est un peu le fil rouge de mon livre où je raconte leur quotidien. Je suis remontée 11 ans avant le parricide jusqu'à aujourd'hui. Là, dans la façon dont j'ai décrit les lieux où elles vivaient,
les endroits qu'elle traversait, les odeurs, les rues. Là, j'ai essayé de mettre vraiment dans l'écriture tout ce que moi, je connaissais de la Russie, tout ce que j'y aimais, pour que les lecteurs retrouvent des sensations, des émotions, et puis la langue même, parce qu'il y a plein de mots russes dans le livre, en fait. Donc, ouais, voilà, j'ai cherché vraiment ce... Je voulais raconter, vraiment dire, mais toujours sans juger, toujours en étant aussi au niveau des gens, en fait. Hein. C'est que des histoires individuelles, quand même, que je raconte. C'est l'histoire de ses filles. C'est assez dur, quand même, d'être plongée. Enfin, je passe vraiment, au début, un an, en fait, à regarder ses émissions, à lire des choses, à enquêter un peu, mais voilà, en prenant des notes, et ça m'habite, en fait. Donc, tout ce que j'ai fictionnalisé, là, en fait, c'est vraiment des scènes qui sont venues dans mon esprit de façon assez spontanée. Je peux pas, il y a une photo, et puis j'imaginais une scène, j'entendais une anecdote, j'imaginais une scène. Donc ça, j'ai laissé ça se faire. Et puis, l'évidence progressivement d'utiliser aussi le matériau autobiographique. Et là, m'en ressaisir, mais avec une distance, un vrai recul que le temps permet. Et puis le passage, du coup, en littérature, quoi. Mais j'avais toujours eu envie de l'écrire ça, mais j'aurais pas voulu non plus d'un livre qui racontait que ça. Mais je crois que de passer par l'histoire des autres, ça me permet peut-être de passer par l'extérieur, ça me permet de revenir à l'intérieur et de me saisir de choses qui, dans mon existence, alors l'idée c'est pas de me raconter, mais c'est d'en faire quelque chose qui peut parler à d'autres personnes. C'est un peu ça le projet. En fait, personne ne parlait de l'emprise. Enfin, je sais pas, c'est encore, mais ça fait finalement assez peu d'années. Peut-être qu'on en parle aussi en France, mais là, en Russie, c'était vraiment une espèce de méconnaissance totale de ça. Ben oui, mais elles avaient qu'à partir. Mais voilà, pourquoi non. Enfin, en fait, en plus, c'est leur père. Enfin, il y a quelque chose de terrible. Puis elles vivaient dans un huis clos, qui était complètement refermé au fur et à mesure. Et ça, oui, je voulais montrer qu'est-ce qui fait qu'on ne part pas. Mais après, il y a toujours un moyen de... Alors, c'est sûr que dans l'histoire de ses filles, le moyen de casser ce huis clos, c'est un parricide. Donc, je ne dis pas que c'est... Mais ça, c'est pareil. Non, mais ça m'a questionné. Parce que je découvre les visages de ses filles et je me dis, elles ont des visages d'anges. Et j'ai quand même cette question pendant toute l'écriture de livre, c'est qu'est-ce qui fait que de victimes... On devient bourreau, parce que on parle quand même d'un meurtre, d'une violence. Donc c'est quand même, c'est cette idée. Ça, on retrouve ça en France aussi. Hein, donc dans les relations hommes-femmes, on a un peu, mais on baigne là-dedans aussi, même nous, de toute petite fille, dans tout ce qu'on peut voir, les films. C'est s'il est pas très sympa, s'il nous force un peu, c'est parce qu'en fait il nous aime. Quoi. Donc c'est un peu, c'est ce truc de, oui, on essaie de se défaire. Ça, c'est tellement ancré.
Je remercie évidemment la librairie Emilière de Château-Gontier qui a organisé cette rencontre. Le roman Trois sœurs de Laura Poggioli est une belle découverte littéraire que je vous recommande. Dans quelques instants, c'est Alain de la Ligue des droits de l'homme qui revient pour sa chronique, mais pour le moment, on écoute le duo Philippe-Catherine, Angèle, un morceau qui fait du bien pour ce lundi.
Comme un sculpteur qui se retrouve avec une dalle à marbre. Le sculpteur enlève tout ce qui n'est pas la statue. C'est ça, mon pattern.
On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern.
On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern. On a le même tempo, mais pas le même pattern.
On chante la même mélodie.
On chante la même mélodie, mais pas avec les mêmes harmonies.
Je chante à cette chante les mêmes mots,
pas tout à fait les mêmes mots, pas tout à fait les mêmes mots,
pas tout à fait les mêmes mots, pas tout à fait les mêmes mots, pas tout à fait les mêmes mots, pas tout à fait les mêmes mots, pas tout à fait les mêmes mots, tout à fait les mêmes mots, tout à fait les mêmes mots, les mêmes mots.
Tu aimes faire la musique avec moi?
Ah oui, j'aime faire la musique avec toi. Regarde là-bas, le soleil rougeoir.
Je joue du synthé pour toi.
Je joue de la guitare pour toi.
Je joue du piano pour toi.
Je joue de la flûte pour toi.
On joue la même mélodie.
On joue la même mélodie. Mais pas avec le même son. Et ça nous rend moins cons. Et ça nous rend moins cons. Et ça nous rend moins cons. Et ça nous rend moins cons.
Je vous le disais tout à l'heure, la Ligue des droits de l'homme est de retour en chronique dans l'agité du local. En septembre 2023, qu'est-ce qui marque cette rentrée pour vous?
Alors, les adhérents de la Ligue des droits de l'homme en Mayenne ont tenu leur réunion de rentrée hier soir. Cette réunion était importante pour notre groupe local. En effet, depuis le début de l'année, nous comptons un tiers d'adhérents en plus. Cette assemblée de rentrée était donc un moment particulier pour accueillir ces nouveaux adhérents, ces femmes et ces hommes qui ont rejoint la Ligue des droits de l'homme pour agir ensemble pour nos droits et nos libertés. En effet, face à une dérive liberticide, il est nécessaire de se regrouper pour agir ensemble, pour faire collectivement, pour pouvoir peser. Seul, on ne pèse pas, collectivement regroupé en association, on est en capacité d'agir. Voilà la raison première qui fait qu'on est adhérent à la LDH.
Et quels sont les thèmes et les sujets d'action de la Ligue des droits de l'homme en cette rentrée?
Eh bien, les raisons d'agir ensemble ne manquent pas. La LDH est une association généraliste, une association libre, indépendante, laïque, qui est engagée dans tous les combats pour les droits et les libertés. Ainsi, nous portons attention à de nombreux sujets. Le droit des personnes étrangères pour un droit d'asile respecté, la protection des mineurs étrangers, action que nous menons avec d'autres associations locales au sein d'un collectif qu'on appelle le COLEDIS. À ce titre, nous portons une attention toute particulière au projet de loi du ministre Darmanin qui vise à restreindre encore les droits des étrangers. C'est une énième loi immigration qui est annoncée et la LDH a exprimé son profond désaccord avec une grande partie de son contenu. Notamment, elle prévoit de faciliter l'expulsion de celles et ceux qui sont traités de méchants par le ministre de l'Intérieur, même si la seule chose qui leur soit réellement reprochée, c'est d'être dans notre pays après avoir fui le leur. Ce projet de loi fait l'objet de surenchères politiques, à droite et à l'extrême droite. Le sujet de l'immigration est utilisé comme objet pour servir les objectifs de conquête du pouvoir. Alors nous participons également à des actions pour combattre le racisme et les discriminations, ce qui peut passer par l'organisation de ciné-débats ou encore de conférences. Nous portons attention à la protection des données personnelles et nous nous opposons à la surveillance des populations par la vidéosurveillance et autres moyens numériques de surveillance. Et nous sommes également engagés pour faire vivre la laïcité, qui est un des fondements du vivre ensemble.
Alors précisément sur la laïcité, en cette rentrée, qu'en est-il pour la Ligue des droits de l'homme?
Eh bien, la rentrée scolaire s'ouvre sur une énième polémique sur les vêtements des jeunes femmes musulmanes, qui à partir d'incidents qui ne touchent que 0,25% des établissements scolaires, probablement aucun en Mayenne, mêle une fois de plus crispation identitaire, piège politicien et crise de ce qui fait le vivre ensemble. Crise du vivre ensemble laïque fondée en 1905 par la loi de séparation d'Église et de l'État qui, rappelons-le, est une loi de liberté et d'émancipation des consciences. Cette loi et la philosophie politique qu'elle porte ne peut servir ni à exclure, ni à discriminer. Certes, il y a des pressions identitaires fondées sur des interprétations religieuses qui cherchent à enfermer les individus dans des traditions oppressives qui vont à l'encontre des droits fondamentaux, notamment, je pense à l'égalité homme-femme. Et sur ces enjeux, le combat d'idées sans concession est nécessaire. Mais comme le disait Aristide Briand à des auteurs de la loi 1905, la République n'a pas à décider au nom d'interprétations théologiques qui ne la concernent pas, d'interdits vestimentaires qui passent à côté de l'essentiel. L'essentiel est de permettre le débat d'idées, la promotion de la raison, l'ouverture contre tous les enfermements idéologiques, et cela ne se pose pas dans l'accessoire, dans les apparences vestimentaires, mais dans les esprits, dans les idées.
C'est une diversion alors.
Et oui, on le voit bien maintenant avec un peu de recul que cette mise en avant du sujet des vêtements dans les établissements scolaires est un coup politique qui marque mal les vrais problèmes. Nous sommes face à une crise du service public de l'éducation. Les inégalités d'accès à l'éducation augmentent, notamment à l'enseignement supérieur ici en Mayenne. Et aussi, il y a une dégradation constante des conditions d'exercice du métier d'enseignant. Là où les services publics reculent, ne reste que les gesticulations autoritaires et la démagogie électoraliste. Le port d'un uniforme, par exemple. Et cela ne règle rien à la crise, au contraire. Les élèves, les enseignantes et les enseignants, les citoyennes et les citoyens que nous sommes méritent mieux. Quel avenir commun pour les jeunes, quel que soit leur genre, quelle que soit leur croyance? Comment faire vivre la laïcité, pilier du vivre ensemble, dans le respect des croyances et des diversités? Quelle force collective pour porter l'émancipation et l'égalité en dignité et en droit? Voilà pour nous, Ligue des droits de l'homme, les vraies questions ouvertes en cette rentrée.
Merci Alain. L'AJT du local, c'est terminé pour aujourd'hui, mais évidemment, la programmation qui suit vous réserve de belles surprises puisqu'à 19h, c'est Solénoïde pour un grand voyage sonore suivi de la discothèque de Morgane à 20h qui promet de belles découvertes musicales. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. C'était l'AJT du local. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Et d'ici là, faites-le bien.
Bon ben, Mimi, on dirait que c'est fini.